hombres y mujeres que se rehazan. Je réfute totalement ce qui se
passe. Moi, j'ai fait une compagnie au cassandrage. Donc, on peut, en combinant les deux, se méprisant, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour, bienvenue à l'émission Parole aux auditeurs, l'émission de Radio Capi qui vous donne la parole sur les sujets qui vous intéressent. Ce lundi, pour débuter la semaine, votre émission 100% interactive se penche sur les entreprises du portefeuille de l'État. La plupart de ces entreprises connaissent des problèmes de fonctionnement, c'est le cas par exemple de la Gécamines, l'ONASTRA, la SNCC, LAC, OGFM, RENAPI, la SNEL, la Régie des Eaux. Pour l'instant, plusieurs actions et discussions sont en cours au sein du gouvernement avec ses partenaires pour leur réforme. La RDC compte une centaine de ces entreprises. Cela fait plus d'une année que sur cette centaine, certaines entreprises ont amorcé un processus de transformation en société commerciale, soit en établissement public ou encore en service de l'État. Ce secteur est le troisième en RDC après l'enseignement et la santé qui emploie le plus grand nombre des Congolais. Ce sujet vous captive, voici la question pour lancer l'émission. Selon vous, que faut-il pour relancer ces entreprises? Nous avons invité Albert Liéquet, il est le chargé de communication du comité de pilotage pour la réforme des entreprises du portefeuille de l'État. Nous aurons aussi au bout du fil, au cours de l'émission, l'avis d'autres experts en la matière. Christine Poutou Kitoukou, Pierrot Elamendi Chimbila et Nicole Ngaka sont à la réalisation de cette émission.
Réagissez en direct à l'actualité dans Parole aux auditeurs. Composez le 081-99-77-800 par internet en écrivant à pa@radiocati.net.
Comme je vous l'ai dit encore une fois, bonjour. Aujourd'hui, nous débutons la semaine avec un sujet sur les entreprises du portefeuille de l'État. Ces entreprises, en fait, qui en RDC, c'est un secteur qui emploie un grand nombre des Congolais après l'enseignement et la santé. Nous avons déjà au bout du fil Théophile. Il nous appelle à partir de Kananga. Bonjour Théophile.
Oui, bonjour Madame Marie Chantal. C'est Théophile Chamba à partir de Kananga.
Merci beaucoup.
Je vais m'aborder sur une entreprise. C'est l'Office national des transports qu'on a traversé. Au gradois, j'ai eu la travail là. Madame, je vous dis que la part des responsabilités revient d'abord au gouvernement. Vous verrez cette entreprise là qui a comme objet social le transport des personnes qui aiment bien avoir filiale. Selon la ligne, même vers le niveau où j'ai travaillé, je vous dis qu'il y a des choses impossibles. L'État ne veut pas suivre les activités de cette entreprise.
Mais si vous plaît, Théophile, nous parlons ici, nous faisons allusion à la question pour lancer notre débat, c'est de savoir que faut-il faire pour relancer ces entreprises. Il y a un fait qu'on ne peut pas discuter. La plupart de ces entreprises connaissent un problème de fonctionnement. Selon vous, que faut-il faire pour relancer ces gens d'entreprise?
Ah,
pour le cas,
oui,
par exemple, de l'ONATA, quelles sont les propositions?
Moi, je trouve qu'il faudra nécessairement privatiser ces entreprises. Si l'État trouve, si l'État est incapable de les supporter, pourquoi moi, je trouve qu'il faut privatiser? Si il trouve qu'il faut, avoir engagé le fonds, il faut octroyer les nouveaux matériels aux entreprises, retraiter le personnel qui est déjà âgé. Vous verrez, avec une entreprise là, à peu près 75% du personnel qui est déjà en âge de réserve. Il faut que ce personnel puisse partir et laisser place aux nouvelles unités. Moi, je trouve que c'est ça. Si l'État trouve qu'il a mesure de pouvoir encore fonctionner les entreprises, il peut le faire en octroyant le nouveau matériel et retraiter le personnel. Ou au cas contraire, c'est simplement privatisé. Vous laissez le secteur, l'aspect d'exploitation seulement. au privé comme ça, ça fait quand même les choses.
Merci Théophile. Vous pensez qu'il est question de privatiser l'ONATRA? D'ailleurs, l'ONATRA fait partie des entreprises du portefeuille de l'État qui est dans le processus réellement de privatisation. Et nous aurons dans ce studio, comme nous l'avons dit, M. Albert Liéquet, qui est en fait le chargé de communication du comité de pilotage dans le cadre de la réforme de ces entreprises. Il pourra donner peu d'informations à ce sujet. Merci beaucoup Théophile pour votre intervention à partir de Kananga. Bonjour Salé.
Bonjour.
Vous êtes à Kalemi. Quelle est votre vision pour relancer les entreprises du portefeuille de l'État?
Oui, pour relancer les entreprises du portefeuille de l'État, c'est d'abord ce qu'il faut signaler. Nos entreprises souffrent de problèmes de gestion. La gestion est catastrophique. Et lorsqu'on veut relancer, il faut commencer à la base. C'est le problème de la gestion, le problème du personnel.
Mm-hmm.
Il faut restructurer tout. Et par exemple, pour les cas de la SNCC, nous voyons ici, il n'y a absolument, pour qu'un train quitte Kalemi pour aller à Kindu, il faut faire 4 mois, 5 mois. Alors, c'est un problème de gestion. Il faut acheter d'autres locomotives, motiver le personnel. Et les gens évoquent le problème de la privatisation. Et c'est bien la privatisation. Mais la question qu'on se pose, il faut qu'il y ait un choix judicieux avec les animateurs qui viendront relancer les entreprises du portefeuille de l'État.
Mm-hmm.
Et on a parlé de l'ONATRA. On a entendu sur vos ondes ici, les travailleurs se lamentaient et non, les gens qui sont venus porter un coup de main à l'entreprise n'ont rien fait. Ils ont étalé, ils se sont attribués beaucoup une grosse somme de salaires, et ce sont des gens qui n'ont aucune expérience. Quelqu'un qui était un chef de dépôt et qui vient ici pour, on le nomme directement directeur, parce que c'est un blanc. Alors imaginez-vous les conséquences. C'est un problème de gestion et un problème de faire des choix judicieux, des animateurs qui pourront fonctionner bien ces entreprises.
Merci beaucoup Salé pour votre intervention. Vous pensez qu'il faudrait revoir la gestion de ces entreprises, aussi restructurer ces entreprises. Merci beaucoup Salé pour votre intervention à partir de Kalemi.
Parole aux auditeurs.
Bonjour Monsieur Albert Liéquet.
Bonjour.
Vous venez de faire votre entrée dans ce studio. Vous êtes le chargé de communication du comité de pilotage pour la réforme des entreprises du portefeuille. Nous avons déjà débuté cette émission. Nous avons eu deux intervenants qui ont donné leur point de vue concernant la relance des entreprises du portefeuille de l'État. La première personne a sollicité en fait la privatisation, et aussi un autre qui pense qu'il faudrait la réforme du personnel et pouvoir assurer une meilleure gestion de ces entreprises pour pouvoir les relancer. Mais il faudrait dire que les entreprises du portefeuille de l'État sont déjà dans un processus. Pour certaines de ces entreprises, il y en a qui sont en processus de transformation en entreprise commerciale, d'autres en service public, et aussi il y a d'autres qui sont en établissement public en processus de transformation. Mais dites-nous, vous qui êtes du comité de pilotage, où est-ce que vous en êtes avec ce processus de réforme des entreprises de l'État?
Je viens de vous le dire, mais en arrivant, j'ai saisi au vol un correspondant de Kalemi, je crois, qui disait que l'on ne peut pas prendre un chef de dépôt et le nommer directeur.
Mmh.
Je vais tout de suite réagir à cela, parce que je crois qu'il est important que les gens sachent exactement ce qui se passe.
Mmh.
La plupart des Congolais sont chrétiens, croyants. Une phrase dit, mon peuple meurt faute de connaissance.
Voilà, c'est pourquoi vous êtes dans ce studio aujourd'hui et que nous avons choisi ce thème.
Eh bien, je voudrais rassurer cet auditeur de Kalemi. Les personnes qui sont recrutées dans le cadre des programmes de stabilisation, le sont sur une base concurrentielle, après avoir déposé l'ensemble d'un dossier. Et les experts congolais étudient tous les dossiers. Il est inadmissible qu'on puisse prendre un chef de dépôt pour une. Je me souviens qu'un de mes collègues a participé à un débat sur Okapi il y a environ une dizaine de jours. On lui a posé la même question. Il a répondu que les personnes dont on parle sont des ingénieurs qui ont une grande réputation.
Mm-hmm.
Ça ne veut pas dire qu'ils sont nécessairement compétents ou plus compétents que des Congolais, mais ça veut dire qu'ils ont été recrutés sur des bases documentaires sûres.
Mm-hmm.
Les dossiers ont été étudiés. Rassurez-vous, cher monsieur de Kolwezi,
de
Kalemie, on ne prendra pas n'importe qui pour venir nous donner des leçons.
Oui, mais où est-ce que vous en êtes avec ce processus de réforme des entreprises de l'État?
C'est un très très long processus, madame, mais votre question est tellement générale que je risque de vous prendre tout le temps.
Non, en fait, d'une façon brièvement, est-ce que déjà il y a des entreprises qui sont dans ce processus? Est-ce qu'ils ont déjà cédé les parts? Est-ce qu'il y a des actionnaires? Comment est-ce que ça se passe? Bon, en gros.
C'est là que se situe la confusion. Vous parlez de céder des parts. La transformation, ce n'est pas privatiser, ce n'est pas céder des parts.
Mm-hmm.
La transformation est d'abord un processus juridique légal. La première chose qui a été faite, c'est de donner un nouveau cadre juridique aux entreprises du portefeuille de l'État.
Mm-hmm.
Jusque-là, nous fonctionnons sur une loi de 78 qui était complètement obsolète, qui n'était plus adaptée au contexte congolais actuellement, au contexte des affaires dans le cadre de la mondialisation. Ce n'était plus adapté du tout. Et donc, la première chose qu'il fallait faire, c'est d'avoir un nouveau cadre juridique. Le processus commence par là. Le nouveau cadre juridique sur le plan des documents a été établi. Vous vous souviendrez que le chef de l'État a édicté les lois sur ce nouveau cadre juridique, il y en a quatre. Par la suite, un an plus tard, le premier ministre Mouzito a édicté les mesures d'application au travers des décrets. Le cadre est planté. Maintenant, le processus se poursuit. Où en est-on? Les décrets du premier ministre consistaient notamment à séparer dans le portefeuille de l'État les entreprises qui avaient une vocation marchande, de création de richesses, avec des entreprises qui étaient des prolongements de l'administration publique ou des services publics. Cette séparation a été faite au travers des décrets édictés par le Premier ministre qui portaient, je vais vous lire l'intitulé exact, qui portaient transformation des entreprises publiques. N'est-ce pas? Vous vous souviendrez, je pense que vous avez lu tout ça, vous êtes journaliste. Le portefeuille de l'État concernait un certain nombre d'entreprises. 20 d'entre elles sont en voie de transformation en société commerciale. 20 autres ont été transformées en établissements ou en services publics. Et certaines sont carrément en processus de liquidation. Et donc, ce processus se poursuit. S'agissant des transformations en établissements publics, les statuts ont été faits, ils ont été discutés, ils ont été soumis à la sanction des autorités. Certains statuts ont d'ores et déjà été publiés. Voilà, vous avez sous les yeux le journal officiel qui publie ce statut.
Mais quand vous dites que des entreprises, vous pouvez un peu éclairer en fait l'opinion, quand vous dites que des entreprises seront transformées en sociétés commerciales, donc ces entreprises vont rester de l'État ou bien il y aura des actionnaires qui peuvent participer?
C'est le début du processus. On commence par transformer en société commerciale pour que ces entreprises fonctionnent selon les règles du marché. N'allons pas trop vite en besoin. Puissent être compétitives. Pour l'instant, l'actionnaire de ces entreprises, c'est l'État. C'est une dérogation au droit des sociétés. C'est l'État, l'actionnaire unique. Il n'est pas exclu que dans la suite du processus, l'État cède ses parts pour des raisons que l'État aura à élucider le moment venu. Et ça, c'est la loi sur le désengagement de l'État qui le précise, une loi qui a un certain nombre de garde-fous bien précis, qui dit dans quel contexte l'État peut vendre des actions, peut céder des parts.
Mais vous n'êtes pas encore arrivé à cette étape-là. Vous êtes encore en train de voir dans quelle mesure cela peut être possible.
Non, nous sommes encore pour l'instant en train de stabiliser nos entreprises. Qu'est-ce à dire? Je vais prendre des images. Je m'adresse à des millions de Congolais, vraisemblablement. Nous ne sommes pas tous économistes. En tout cas, je ne le suis pas. Je suis chargé de communication.
Oui.
Et donc, il y a des choses qui doivent être explicitées sur le plan image. Supposons que vous êtes propriétaire d'un minibus qui fait le transport en commun. Vous constatez que ça ne donne plus tellement de bons résultats et vous voulez le céder à quelqu'un. Je pense que le meilleur réflexe, essayer de le retaper un peu, remettre un peu de peinture, refaire un peu, il aura plus de valeur, n'est-ce pas? Le programme de stabilisation de nos entreprises, c'est leur redonner une nouvelle santé qui leur permette de mieux fonctionner, de rendre le service pour lequel ces entreprises ont été créées et le cas échéant, j'insiste, le cas échéant, céder une certaine partie de ses actions à un coût rémunérateur.
Mais entre-temps, l'État va rester quand même le plus grand actionnaire dans toutes ces entreprises.
Je ne suis pas l'État. Oui. Je regarde comment se déroule le processus.
Mm-hmm.
Dans un premier temps, l'État essaye de refaire une bonne gestion pour ses entreprises.
Mm-hmm.
S'il lui arrivera de décider de se désengager ou pas, c'est une décision qui lui revient.
Merci beaucoup. Nous allons poursuivre cette émission. Nous avons déjà Viviane qui est en ligne à partir de Colombie.
Parole aux auditeurs.
Bonjour Viviane.
Bonjour madame.
Oui Viviane, dites-nous un peu comment...
Parler de l'état des lieux des entreprises publiques
nous parlons
au milieu.
S'il vous plaît Viviane.
Oui. Oui.
Nous passons directement aux propositions. Selon vous, qu'est-ce qu'il faut faire pour relancer les entreprises de l'État? Parce que nous savons d'une manière générale que la plupart des entreprises du portefeuille de l'État connaissent des problèmes de fonctionnement. Allons-y directement aux propositions. Quelle est votre
solution? Ok, madame. Alors, pour relancer ces entreprises publiques dans notre pays, moi, je proposerais ce qui suit. Que l'État cesse de trop utiliser l'argent de ces entreprises pour des besoins externes à l'entreprise. Par exemple, la Gécamines finance ici, c'est là, quand il a besoin, quand on a besoin de quoi que ce soit, on retire des sous ou des fonds dans l'entreprise. Et que l'État congolais puisse envisager aussi la privatisation de certaines entreprises comme l'OCPT, parce que l'État congolais a besoin de problèmes, il a beaucoup de problèmes qui ne lui permettent pas peut-être de financer et bien gérer correctement un grand nombre de ces entreprises,
mmh.
où il est préférable peut-être d'attribuer la gestion au privé, les encourager, et que les gouvernements congolais puissent aussi avoir, aussi allouer, peut-être, selon moi, dans le budget, une part significative destinée à relancer ces entreprises en renforçant leur capacité de production et en améliorant peut-être aussi les conditions de ressources humaines. Enfin, je dirais aussi que j'insisterai en disant que la politique de tolérance zéro prônée par son excellence le président de la République démocratique du Congo soit de stricte application au sein de ces entreprises publiques. Ceci vraiment pour lutter contre la mégestion, le détournement des fonds et l'utilisation des moyens matériels de ces entreprises à des fins personnelles.
Merci.
Et en bref, lutter contre les antivaleurs qui tuent les entreprises. C'est ça ma contribution.
Merci Viviane, vous parlez de la mauvaise gestion dans ces entreprises, vous préconisez la lutte contre l'impunité, vous pensez également à la privatisation de certaines de ces entreprises. Merci pour votre intervention. Bonjour Sylvain. Sylvain, vous êtes à Bougna dans la province orientale. On vous écoute, Sylvain. On a...
Oui.
Sylvain, vous êtes au bout du fil?
Oui, je suis à ligne.
S'il vous plaît, Sylvain, est-ce que, comme d'habitude, essayez un peu de pouvoir carrément éteindre votre poste récepteur, ce qui permettra pour nous d'avoir une meilleure qualité de son, mais aussi que vous puissiez nous suivre correctement et rester vraiment attaché à votre portable, votre téléphone portable. C'est plus facile pour nous de communiquer. Comme je vous le demandais, Sylvain, quel est votre rapport à cette émission?
Oui, merci d'abord de pouvoir accorder la parole. Je voulais absolument saluer les auditeurs de la radio Capi. Le sujet choisi le fait d'un respecté. En fait, c'est un certain qui vient d'agir, on a déjà dit la majorité des choses.
Mm-hmm.
Mais je voulais quand même dire une chose, c'est qu'en fait, il faut rendre compétitif le secteur de l'entreprise, en fait, le secteur public au Congo. Votre invité l'avait bien dit. Il est vrai que nos entreprises publiques ne sont pas compétitives. Je pense que comme la première proposition, il faut rendre cela très concurrentiel, à ce que cela puisse quand même répondre à certains besoins et certaines normes internationales.
Et selon vous, Sylvain, que faut-il faire pour rendre nos entreprises compétitives?
Oui, j'y arrive. Je pense que d'une manière ou d'une autre, d'abord, la définition et la considération d'une bonne politique en matière de la main-d'œuvre doit être une première. Je pense aussi qu'il faudrait voir les sources de financement de ces différentes entreprises, puisqu'il est vrai qu'aujourd'hui l'État congolais a des difficultés à financer ces entreprises. Les autres avaient déjà dit qu'il faut privatiser les entreprises. Je pense que ça pose problème par rapport aux sources de financement de ces entreprises.
Mm-hmm.
Mais il y a aussi d'autres choses. Il faudrait voir ce qu'on appelle l'assainissement financier. Il est vrai, nous avons connu certains problèmes qu'on a considérés comme corruption, dilapidation des fonds publics. Ces histoires vont désormais être mises de côté dans les secteurs publics. Mais je pense aussi qu'il faut développer le système d'audit interne et externe qui n'est pas périodique dans ces secteurs-là. Puisque, en fait, on a remarqué que ça faisait longtemps, on ne faisait aucun audit. Et il arrivait que les gens quittent les fonds de ces entreprises. On ne fait aucun contrôle, alors ça posait trop de problèmes.
Mm-hmm.
Mais il y a aussi ce que j'appelle la formation quotidienne du personnel au sein de ces secteurs.
Mm-hmm.
En fait, votre invité disait déjà qu'il y a ce qu'on appelle la stabilisation de ces secteurs. Moi,
mm-hmm.
je pense que l'élaboration de la forme de loi qui va régir ces secteurs, c'est une bonne chose.
Mm-hmm.
Mais la grande problématique demeure l'homme qui est dans ces secteurs et aussi la volonté de nous, Congolais, de faire avancer les choses. Ça, c'est tout doucement à Marie-Thérèse qui est lancée aux autorités en sujet.
Merci beaucoup, Sylvain, pour votre intervention. Vous avez mentionné, en fait, la volonté de pouvoir changer les choses. Vous avez pu mettre en exergue plusieurs autres choses pour pouvoir rendre nos entreprises publiques plus compétitives. Nous prenons Paulin qui sera le dernier auditeur de cette première série. Bonjour Paulin.
Bonjour Madame la journaliste.
Oui, et Paulin, à partir d'ici, dans la province orientale, quelle est votre lecture, quelle proposition faites-vous?
Ça, chez nous, à Ijeo, tout le monde a ce pays ne fonctionne pas. Je vais prendre l'exemple de 93. Beaucoup de temps, de jours, ça ne fonctionne pas. Il y a des travailleurs qui ne travaillent pas ici chez nous à Ijeo. Mais toujours sans travailler comme ça, en tout cas, santé, ça ne marche pas.
Et quelles sont vos propositions?
L'État congolais de faire renforcer ses entreprises pour continuer à travailler.
Et merci beaucoup, Paulin, pour votre intervention au cours de cette émission. Vous avez fait un témoignage, vous pensez, vous avez trouvé que chez vous, aussi, il y a un problème. Hein. Il y a certaines entreprises qui ne fonctionnent pas correctement. Et merci pour votre intervention à cette émission.
Parole aux auditeurs. Pour intervenir en direct ou envoyer un SMS, composez le 081-99-77-800 par internet ca@radiookapi.net.
Vous êtes branchés sur Radio Okapi et c'est l'émission Parole aux auditeurs. Et ce lundi, nous nous intéressons aux entreprises du portefeuille de l'État. La plupart de ces entreprises connaissent des problèmes de fonctionnement. C'est le cas, par exemple, de la Gectamine, Lumatra, la SNCC, la Cogecom, Renatis, Nel, Régis des Eaux. Pour l'instant, plusieurs actions et discussions sont en cours au sein du gouvernement avec ses partenaires pour leur réforme. Ce secteur est le troisième en RDC après l'enseignement et la santé qui emploie le plus grand nombre des Congolais. Ce sujet vous captive. La question pour lancer cette émission était, selon vous, faut-il comment faire pour relancer ces entreprises? Nous avons dans ce studio invité M. Albert Lieke, il est chargé de communication du comité de pilotage pour la réforme des entreprises du portefeuille de l'État. Et aussi, au cours de cette émission, vous aurez l'avis aussi de la perception de plusieurs autres experts dans la matière. Monsieur Lieke, vous avez suivi nos auditeurs, une réaction?
Je suis assez heureux des deux premières réactions. Ce sont des Congolais qui ont perçu exactement la situation des grandes entreprises aujourd'hui et qui font des propositions pour la plupart déjà mises en œuvre. C'est un son de cloche qu'on écoute assez rarement. Hein. Généralement, ce sont des récriminations. Par exemple, Mme Viviane dit qu'il faut, elle parle carrément de privatisation, il cite le cas de l'OCPT. Ça, c'est un exemple intéressant. Pourquoi l'État crée une entreprise? Pourquoi une personne?
Pour rendre d'abord service.
Voilà.
Oui, pour faire des bénéfices.
L'État crée une entreprise pour créer des richesses, faire des bénéfices, créer des emplois, ainsi de suite. Alors, est-ce que l'État doit nécessairement rendre lui-même ce service? Ça, c'est le débat de la privatisation ou pas. Prenons le cas du secteur de l'OCPT. Je vais vous donner un certain nombre de choses. Il y a quelques années, pour appeler en Papouasie, on avait passé la nuit à l'hôtel de poste. N'est-ce pas? On y arrivait vers 1h du matin, on attendait très longtemps, et puis finalement, on avait une communication extrêmement coûteuse. Prenez le cas du téléphone portable. À ses débuts, vous vous souvenez du long téléphone pour lequel on payait quelques dizaines de dollars la minute. Le secteur des télécommunications a été le premier à être libéralisé. Vous voyez les résultats. On peut se poser des questions. Est-ce que le service liés aux télécommunications fonctionnent bien maintenant? Est-ce qu'ils fonctionnent bien?
Peut-être que si le secteur de communication qui est géré par l'État, peut-être ça serait moins cher que maintenant et que beaucoup de plus de Congolais pourraient accéder à ce service-là que maintenant.
Le rôle d'un État dans ce secteur-là aujourd'hui, le rôle de l'État, c'est de mettre en place les conditions pour que tout le monde puisse créer une entreprise et qu'il y ait de la compétitivité. Le progrès vient du choc des compétences, le progrès vient du fait que beaucoup de personnes s'intéressent à un secteur et ça crée de l'émulation. Le monopole n'a jamais été bon pour une économie. Jamais. Et l'exemple dont nous parlons est un bon exemple. Aujourd'hui, il est clair, le service est mieux rendu qu'hier. Il est clair que le secteur aujourd'hui utilise beaucoup plus de Congolais qu'à l'époque. L'entreprise d'État utilisait peut-être 4000 personnes, en tout cas pas davantage. Aujourd'hui, mises ensemble, toutes les sociétés de télécommunications utilisent beaucoup plus de Congolais. Avec le fait de création des entreprises, regardez toutes ces boutiques au coin de nos rues, hein, Telcom, Telautrecom, ainsi de suite, vente des cartes, ainsi de suite.
Cabine publique. Hein.
Cabine publique, il y a là vraiment une création de richesses qui se multiplie. Ensuite, on peut également se poser la question, mais je sais que vous avez la réponse, quelle était la contribution de l'entreprise publique qui était en situation de monopole dans le secteur, dans le budget de l'État? Quelle est la contribution aujourd'hui de toutes ces entreprises trouvées dans le budget de l'État? Je crois que c'est l'exemple qui démontre qu'il est important que les conditions de concurrence soient créées pour qu'il y ait de l'émulation dans le secteur.
Oui, et ça revient en fait à poser la question avec toutes ces réformes qui sont en cours, ce processus. Vous espérez en fait favoriser ou bien la création de combien d'emplois? Parce que le problème, le secteur de l'emploi, c'est un grand problème. On a beaucoup de chômeurs en RDC, mais toutes ces conditions qui sont réunies, combien de Congolais pourront trouver de l'emploi?
Vous me demandez de donner un chiffre, je ne vous saurais pas vous donner un chiffre. Tout ce que je peux vous dire, c'est que l'un des objectifs du programme, c'est de rendre notre économie compétitive, qu'elle soit en mesure de créer des richesses, qu'elle soit en mesure de créer des emplois. Et l'exemple que je viens de vous donner démontre qu'il y a des créations d'emplois.
Donc vous n'avez pas encore essayé d'estimer...
Ce n'est peut-être pas notre rôle, hein, d'estimer exactement dans 2 ans, il y aura autant d'emplois créés. Notre rôle n'est pas celui-là.
Parce que la réforme, en fait, s'intéresse toutes les populations. On se pose des questions, oui, c'est vrai qu'on va réformer, mais qu'est-ce que nous gagnons dans ces réformes? C'est un peu ça, en fait.
Ce que nous gagnons, madame, c'est la qualité du service.
En tant que citoyen.
En tant que citoyen. Et si nous sommes citoyens, ça veut dire que nous participons à la vie d'un État. Ce que gagne notre État, c'est ce que nous gagnons également. Eh bien, notre État va gagner des contributions plus importantes. Et je pense que c'est déjà 2 gains extrêmement importants.
Nous prenons directement un auditeur qui, au bout du fil, s'agit du député national Martin Mkonkole. Bonjour, monsieur Mkonkole.
Ah, bonjour madame Marie-Chantal.
Au cours de la session parlementaire passée, il y avait une motion qui a fait couler beaucoup d'encre. Vous êtes attaqué carrément au processus de transformation de l'ONATRA. Aujourd'hui, nous parlons de la réforme des entreprises du portefeuille de l'État. Selon vous, que faut-il faire pour relancer ces entreprises?
Madame, je suis très content de pouvoir entendre les propos tenus par l'expert de Copyright. Je me dis, il a parlé en homme d'affaires et il n'a pas parlé en homme d'État. Il venait de vous dire, madame, des choses qui, si nous devons nous mettre dans la logique de l'État, c'est un métier qui ne peut même pas continuer à œuvrer dire au niveau de cette institution de ne pas passer copier c'est un service public, c'est tout ça. Il vous dit qu'on doit gagner, on a besoin de gagner dans toute activité que nous sommes en train de mettre, c'est tout à fait normal. Il dit qu'aujourd'hui la poste a échoué parce qu'il y a plusieurs cabines, il y a plusieurs maisons de communication, on a plus employé des gens. Madame, c'est regrettable. L'État congolais doit sauvegarder et protéger le peuple congolais en leur donnant un travail et en leur donnant un salaire qui les permettra de pouvoir tenir les coups.
Mais quelles sont vos propositions, monsieur le
député? Madame, je voulais d'abord clarifier ça. Nous avions accepté la transformation des entreprises publiques de l'État, mais à des conditions. Nous n'avions pas souhaité que cette transformation se fasse dans la mesure où elle est en train de se faire maintenant, parce qu'on n'a jamais fait l'état des lieux des entreprises publiques de l'État. On avait hier considéré comme étant des canards boisés, mais ils se sont mis à se les partager. Vous n'avez qu'à voir ce qui a été fait sur une cinquantaine des entreprises publiques de l'État. Vous avez cité l'état de l'ONAGRA. Madame, aujourd'hui, on peut me dire qu'avec leur processus là de transformation, avec leur processus d'assistance technique de la ville de l'État, Donatra a-t-il bénéficié de quoi que ce soit dans ce processus? Je crois que la réforme des entreprises initiée par le portefeuille, nous l'avions toujours dit, madame, aussi longtemps on ne tiendra pas compte des capacités intellectuelles qui sont sur place, de l'expertise qui se retrouve au sein de ces entreprises, aussi longtemps on n'aura jamais fait l'état des liens réels pour évaluer la valeur réelle de chacune de ces entreprises. Ils sont dans leur logique de brader, ils sont dans leur logique de vendre les entreprises de l'État, ils sont dans leur logique de demander la destruction et la disparition de l'économie congolaise de notre pays.
Mais
il faut que des gens soient responsables, qu'ils se mettent d'abord à faire un état des liens réels. Ils valorisent l'expertise nationale au lieu d'aller chercher leurs commissionnaires, qui sont des faux experts internationaux qui viennent pour
dire. Mais monsieur le député, il est aussi de votre devoir et même de votre rôle de pouvoir contrôler comment ça se passe, parce que c'est l'une même de. C'est ce que vous faites, hein, c'est ça même votre travail de pouvoir contrôler ces entreprises de l'État. Mais c'est vrai que vous parlez d'expertise nationale au lieu d'expertise internationale. Est-ce que vous pensez qu'il y a un manque carrément de confiance?
Madame, il y a un manque de confiance de la part des gouvernants de notre pays par rapport à l'expertise nationale. Vous parlez de la question des contrôles. Combien de fois nous avions demandé qu'on contrôle la situation des Coïdro? Combien de fois nous avions demandé qu'on contrôle la situation de la RPA? Combien de fois nous avions demandé qu'on contrôle la situation de l'OCPT qui est en train de brader, de vendre les terrains de l'OCPT? Combien de fois nous avions demandé qu'on révisite les contrats qu'on a signés, qu'il s'agisse au niveau de l'hôpital, qu'il s'agisse au niveau de l'ONATRA? Madame, vous connaissez que ces métiers-là ne sont pas disponibles parce qu'ils sont dans l'air coup. Dans les mêmes, nous faisons tout ce que nous faisons. Qui joue en complicité avec les bureaux de l'Assemblée nationale, qui est dans la même conception?
Ça n'engage que vous.
Aujourd'hui. Oui, ça fait problème. C'est comme ça que nous prenons maintenant en charge la responsabilité d'informer notre peuple en train de se prendre en charge. On ne peut pas continuer. Quand les chefs de l'État déclarent l'ennemi du social, on doit donner du travail aux gens. On doit renvoyer les gens au chômage. On doit payer les
députés
de l'État. On doit les brader.
Si vous payez, monsieur le député, vous faites allusion, vous avez. Je vous prends une phrase que vous venez à peine de dire. Vous dites que le peuple doit se prendre en charge. Mais comment est-ce que le peuple peut se prendre en charge dans la relance des entreprises du portefeuille de l'État?
Nous allons nous opposer, c'est comme ce qui se passe à l'ONATRA. Il faut que les travailleurs de l'ONATRA s'opposent contre les intimidations et les impositions des personnes qui ne rapportent rien à la productivité. Nous allons aller avec la même logique au niveau de l'ANIBA. Vous voyez ce qui est en train de se faire. L'ANIBA est par terre. On vous dit qu'il y a de l'argent qu'on va mettre à la disposition. Quand cet argent arrive, ce sont des experts qui se partagent. Nous demandons que les travailleurs, dans chaque entreprise, se prennent en charge et chaque fois qu'il y a un responsable qui les a imposés, qui s'oppose à celui-là parce qu'on a besoin du travail, qu'on ne peut pas continuer à clocher.
Merci. Merci beaucoup, monsieur Mkonko, le député national, votre intervention, oui, pour les réformes, mais comment réformer, c'est un peu ça l'essentiel de votre intervention. Nous prenons directement Mathieu de Kananga, aussi nous prendrons aussi Paul de Kinshasa, avant de revenir à notre invité qui est au studio. Bonjour Mathieu.
Oui, bonjour, madame Chantal.
Oui, Mathieu, on vous écoute. Que faut-il faire des propositions pour relancer, en fait, les entreprises du portefeuille de l'État?
Bon, les thèmes que vous avez sur les deux cours de base de la dame qui est citée toute, madame, voit la dimension nationale qui est l'intérêt de la population congolaise dans son ensemble. Madame, c'est cas précis concernant les sociétés que vous venez de citer si haut, qui ne sont pas les moindres, mais les grands fournisseurs de l'économie du pays, qui sont en faillite et qu'on sont pour fermer leurs portes. C'est vraiment scandaleux.
Oui, vos propositions, monsieur.
Nous parlons, tous les peuples congolais étaient en attente de voir l'État congolais créer des emplois pour lutter contre le chômage qui est au niveau très élevé. Maintenant, sans encore aboutir à une solution satisfaisante, avec surprise, nous venons de recevoir une réponse négative.
S'il vous plaît, Mathieu, il faudrait un peu qu'on puisse recadrer notre discussion. Il est vrai, nous savons que ces entreprises connaissent un problème de fonctionnement, mais allons directement aux propositions. Qu'est-ce que vous proposez, Mathieu, pour pouvoir relancer ces entreprises?
Combien de chômeurs dans ce pays?
En tout cas, Mathieu, on n'arrive pas à pouvoir s'entendre, hein, vraiment, on s'excuse beaucoup, mais quand même, merci beaucoup pour votre intervention à cette émission. Nous prenons le dernier auditeur de cette deuxième série. Il s'agit de Paul, à partir de Kinshasa. Bonjour.
Ah, bonjour, Madame Marie-Chantal.
Oui, vos propositions pour relancer ces entreprises?
Je voulais d'abord demander une précision. Quand l'invité dit que les entreprises du portefeuille de l'État vont devenir des entreprises publiques, c'est quoi la différence?
Merci beaucoup. Notre invité va pouvoir vous donner la réponse à votre question et surtout, restez branchés sur Radio Capi, ici à Kinshasa, vous me suivez, sur 103.5 pour avoir votre réponse.
Parole aux auditeurs.
Monsieur Lieke, vous avez suivi cette deuxième série d'auditeurs. Je vous vois être juste là vous avez vraiment envie de pouvoir donner certaines réponses à nos auditeurs. Vous avez la parole.
Réponse peut-être pas, parce que nous ne détenons pas la science infuse. Mais peut-être des précisions.
Des précisions.
Je suis en train de me demander si je dois répondre au député Moukongolais, ce que je ne saurais pas, parce qu'il est mon représentant à l'hémicycle. Et donc, il dit là-bas ce que je pense. Moi aussi, je fais partie de la population.
Oui.
Je voudrais tout simplement relever un certain nombre de faits lorsqu'il est dit que la réforme doit être créatrice d'emplois. C'est vrai. Elle doit créer des emplois. Que le peuple congolais a droit à un travail et à un salaire, c'est vrai. Nous venons d'écouter quelqu'un de Isiro qui nous dit que là-bas, rien ne marche. Vous recevez souvent dans votre radio des personnes qui se plaignent d'avoir X mois d'arriéré de salaire, X autres mois d'arriéré de salaire. Lorsque quelqu'un travaille dans une entreprise et qu'il accumule 10 ans d'arriéré de salaire,
comme c'est le cas de...
d'une entreprise que moi je ne cite pas parce que je ne voudrais pas polémiquer, est-ce que cette personne peut dire qu'elle travaille? Est-ce qu'il faut la laisser dans cette situation? Voilà des questions qu'on devrait se poser. S'agissant de création d'emplois, je prends le cas d'une entreprise que je ne cite pas non plus, mais que le député reconnaîtra certainement, qui utilise aujourd'hui 12 000 environ agents, dont 5 000 non actifs. Les agents non actifs, c'est quelque chose qu'on trouve dans beaucoup de nos sociétés. Ce sont des personnes qui ont atteint l'âge de la pension, de la retraite, qui peuvent honorablement partir, mais qui ne peuvent pas partir parce qu'on n'est pas en mesure de payer
leur indemnisation.
Voilà. Eh bien, une entreprise ne peut pas engager. On engage parce qu'il y a des postes de travail qui sont libérés. Alors, dans cette entreprise, on a 5 000 non actifs. Il est évident que ces 5 000 non actifs occupent des emplois qui, en principe, auraient dû être libérés.
À ce moment-là, les partenaires peuvent jouer un rôle.
Mais commençons d'abord par nous-mêmes, n'est-ce pas? Et donc, si notre programme nous conduit à faire en sorte que ceux qui ont droit à une retraite honorable l'obtiennent, imaginez la création d'emplois automatiques du fait de la libération d'un certain nombre de postes. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un système où, à la sortie, on ne sort pas, c'est bouché, mais on ne peut pas entrer non plus.
Mais comment briser ce cercle vicieux, en fait?
Mais justement, en redonnant à nos entreprises une gestion saine, n'est-ce pas? Une gestion saine qui permette de gérer correctement le personnel, qui permette de gérer correctement les quelques moyens de production dont on dispose, il faut d'abord assainir ces entreprises. J'ai également entendu parler de bradage d'entreprise parce qu'il n'y a pas d'évaluation. Je voudrais vous rappeler, madame, que la réforme, ce n'est pas la privatisation. D'ailleurs, dans nos lois, on ne parle pas de privatisation. On parle de désengagement.
Et le désengagement à l'étape de stabilisation.
S'il vous plaît, madame. Le désengagement revêt plusieurs formes. On peut se désengager du capital de l'entreprise, on ne veut plus. On peut se dégager, de se désengager partiellement, on garde des actions. On peut garder la propriété de l'entreprise et demander à des gestionnaires privés de venir vous aider à la gestion. Tout ça, ce sont des formes, mais on n'en est pas encore arrivé là, parce que quelqu'un a parlé de brader, mais on n'a rien bradé du tout. La loi qui est sortie de l'hémicycle, n'est-ce pas, précise notamment les conditions préalables au désengagement. Parmi ces conditions préalables, il y a l'évaluation du patrimoine. C'est prévu, le législateur l'a prévu. Donc ne donnons pas aux Congolais l'impression que tout est mis en place pour brader, liquider, jeter. Il faut lire les lois.
Bon, c'est tout juste, nous sommes en pleine émission, nous parlons de la réforme des entreprises. Nous avons au bout du fil le député Christophe Lutundula et aussi un autre auditeur de Lubumbashi, Lucien. Nous allons tout juste les prendre après ceci.
Parole aux auditeurs.
Bonjour, monsieur Lutundula.
Bonjour, madame.
Vous êtes député national, comme je l'ai dit tantôt, mais aussi vous avez été promoteur, si on peut dire, d'un rapport au cours de la transition sur la gestion des entreprises publiques de l'État à l'époque. Dites-nous un peu, après avoir mené ces genres d'enquêtes, après avoir établi votre rapport, pour l'instant, que faut-il faire pour relancer les entreprises de l'État?
Une petite précision, si vous l'autorisez, madame. Mmh. La commission de Tundula s'est concentrée sur des contrats et les actes de gestion à caractère financier et économique qui ont été conclus pendant la période des guerres, en particulier dans le secteur minier. Pour revenir au portefeuille, à mon avis, il y a une conditionnalité à 5 volets pour espérer relancer le portefeuille de l'État, ou à tout le moins les rentabiliser. La première condition, c'est tout naturellement permettre à la réforme actuelle de s'achever dans de bonnes conditions. Je remarque que dans l'histoire de notre pays, nous sommes de bombes à retardement. Chaque fois qu'il faut faire une réforme en profondeur, nous la refusons sous plusieurs prétextes, coûts sociaux, manque de transparence, et finalement, la situation dégénère. Les entreprises, le portefeuille, se dégrade au point de ne plus rien représenter.
Oui.
Deuxième condition, il y a des problèmes au niveau, si vous voulez, des finances des entreprises du portefeuille. Aujourd'hui, il est absolument nécessaire que l'État, pour ne pas dire le peuple congolais, concentre un effort national des subventions de certaines entreprises publiques. On a décidé des réformes. Mais il ne suffit pas. Les réformes font un cadrage juridique de gestion. Il faudra en plus, surtout les entreprises qui relèvent du commercial, les rendre liquides, solvables, de manière à ce qu'elles financent les investissements à tout le moins. Troisième condition, ça va vous étonner, il faut dégraisser le personnel. Tout à l'heure, celui qui est avec vous au studio vous a parlé d'une entreprise qu'il y a un effectif inactif de 5 000. Ça, inimaginable. Ça ne correspond à aucune logique économique et à aucune logique de gestion des entreprises publiques, fût-elle celle de l'État. Il faudra nécessairement arriver à faire correspondre les activités de l'entreprise aux effectifs qu'elle emploie. Quand vous avez une entreprise qui ne fonctionne que pour les salaires de misère, que pour les papiers hygiéniques, pour les détergents, ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine, il faut carrément liquider l'entreprise. Donc nous devons accepter, syndicats, gestionnaires publics et au gouvernement, même nous les députés, nous ne devons pas faire la démagogie, le populisme à tout moment, il faut accepter un dégraissage, négocier avec les syndicats, de manière à ce que la charge de la relance soit partagée entre l'État et le personnel de l'entreprise.
Mmh. Merci beaucoup.
Si vous permettez là,
oui.
Il faut mettre fin aux interférences politiques. Les entreprises publiques ne doivent pas être des dépotoirs pour satisfaire la clientèle politique. Vous savez que dans beaucoup de pays, des pays qui sont plus avancés que nous, la France, la Belgique, il y a une classe de gestionnaires qui sont apolitiques, qui sont asexués politiquement. Le cas le plus connu en Europe, par exemple, un homme comme Jean Gandois, à son époque, il était réclamé partout. Ce n'était pas un homme politique, il n'appartenait à aucune formation politique, et on le réclamait dans tous les pays, France, Belgique, indépendamment de sa nationalité. Cette classe de gestionnaires qui sont détachés de la classe politique, il faut que nous puissions la faire émerger. Arrêtons donc de partager des entreprises. L'interférence politique aussi, c'est au niveau des ponctions. Des ponctions qui sont faites pour financer des activités de partis au pouvoir ou pour financer les hommes politiques qui sont des gestionnaires au niveau gouvernemental, par exemple. Il faut qu'on arrête là. Et enfin, madame, il faudra, en termes d'interférence politique, laisser les entreprises avec leurs organes définir leur politique de gestion, les objectifs à atteindre, les ressources, les politiques commerciales. Il faut qu'on arrête les interférences de l'État. Et je termine en disant, il faut mettre fin à l'impunité. Et là, je rencontre le collègue qui a parlé tout à l'heure, Martin Moukonkolé, pour déplorer le fait que le contrôle parlementaire dans les entreprises jusque-là, il n'est pas fait, et surtout pas avec efficacité.
Merci beaucoup, Monsieur Lukundula, pour votre intervention. Vous parlez de gestion saine, de la bonne personne dans la place qu'il faut. Vous disiez, vous souhaitez qu'on puisse laisser quand même le mécanisme, le processus qui puisse arriver au bout, et non des interférences pour le caler. Donc, vous avez donné une panoplie, en fait, de propositions pour pouvoir relancer ces entreprises du portefeuille de l'État. Nous vous remercions. Nous prenons Lucien à partir de Lubumbashi. Bonjour.
Bonjour, madame.
Oui, Lucien, en bref, quelles sont vos propositions?
Mes propositions sont les suivantes, madame. Vous savez, les entreprises publiques sont bradées, celles qu'on avait dit là. Les propositions que je peux vous donner pour une bonne gestion, une saine gestion, il fallait peut-être confier la gestion de ces entreprises-là, choisir parmi les agents des entreprises publiques, les agents d'administration ainsi que les agents de gestion. Ce que nous remarquons, parce que c'est parmi les hommes politiques qu'on est en train de choisir et on les met à la tête des entreprises publiques maintenant. Vous conviendrez avec nous que c'est politique.
Oui.
Ces politiciens-là qu'on met à la tête des entreprises publiques, certains d'entre eux n'ont aucune compétence, madame.
Oui.
Nous pouvons vous donner, par exemple, un
message. Lucien. On s'excuse vraiment de pouvoir vous interrompre, mais vous avez donné l'idée maîtresse. En fait, il ne faut pas qu'on politise en fait ces entreprises, qu'on mette la bonne personne à la place qu'il faut. Hein, c'est en gros ce que vous avez dit. On s'excuse beaucoup, on n'a plus assez de temps. Il y a d'autres auditeurs qui veulent aussi intervenir. Merci beaucoup, Lucien, pour votre participation. Directement, nous donnons la parole à Gérard Dissiro. Bonjour, Gérard.
Et bonjour madame, et bonjour à mon invité à la radio.
Oui Gérard, quelles sont vos propositions?
Oui. Et étant donné que Isiro se trouve parmi les activités décentralisées qui comptent le pays à l'avenir, il serait souhaitable que l'autorité locale, pas seulement du gouvernement, puisse prendre des initiatives à faire bien fonctionner ces entreprises dont il est question aujourd'hui, en mobilisant la population sur l'importance de la régie des eaux, de la SNL qui ont de sérieuses difficultés quant à leur fonctionnement ici chez nous, sans toujours attendre du gouvernement, alors qu'il a encore des idées dans beaucoup de domaines.
Mmh.
Parce que si beaucoup de gens ne tiennent toujours qu'au gouvernement, rien ne
Merci Richard pour votre intervention, merci beaucoup pour votre intervention. Vous êtes à Isiro, directement là nous prenons monsieur Richard Ngoubou-Sire. Il est en fait le directeur de l'Association nationale des entreprises du portefeuille. Bonjour monsieur Ngoubou-Sire.
Bonjour madame la journaliste.
Oui, en fait nous avons aussi une préoccupation. Il y a d'abord un auditeur qui nous a écrit, nous allons le lire tout juste après, mais il y a une préoccupation, cette partie de ces personnes qui sont dans le système pour pouvoir reformer ces entreprises, mais que doivent s'attendre les populations? Qu'est-ce qu'elles peuvent faire pour participer à ces réformes?
Merci madame, je voudrais d'abord remercier Radio Capi d'associer la NEP à ce débat. Je voudrais préciser que je suis l'administrateur secrétaire exécutif de la NEP, c'est-à-dire celui qui se charge de l'exécutif de notre association.
Mm-hmm.
Je voudrais aussi saluer mon ami Albert Yekel qui est au studio avec vous et dire que les problèmes des entreprises publiques sont connus et le souci de la réforme ne date pas d'aujourd'hui. Vous vous rappelez que aux années 90 déjà, quelques effets avaient été faits et malheureusement mal faits. Quels sont ces problèmes? Les majeurs, c'est le vieillissement du personnel. Je pense que beaucoup de intervenants sont revenus là-dessus. Il y a l'obsolescence de l'outil de travail, le déficit financier et même le mauvais environnement juridique qui a caractérisé jusque-là le fonctionnement de ces entreprises.
Mmh.
Alors, maintenant, se demander qu'est-ce qu'on doit faire. Je pense que la réponse est déjà donnée par ce que le gouvernement est en train de faire.
Mmh.
Donc, lorsqu'on a décidé de la réforme, je voudrais dire que ceci ne date pas d'aujourd'hui. Déjà, à l'époque, en 2000, il y a eu un forum ici, un colloque national sur la réforme de l'entreprise publique et que ce qui se fait aujourd'hui a un passé déjà assez lointain. Malheureusement, pour des raisons évidentes, il y a beaucoup de passions qui sont soulevées. Moi, je comprends ces passions dans le sens que ces entreprises sont effectivement un patrimoine national et qu'on devrait faire attention dans tout ce qu'on fait. Mais la réforme aujourd'hui est plus qu'une nécessité, c'est un impératif.
Oui, mais que faire la population pour aider? C'est vrai qu'on a besoin des capitaux, on a besoin d'une bonne gestion, mais qu'est-ce que peuvent faire les populations dans ces genres de réformes?
Bon, la population, vous avez entendu ce que la population a dit. Tout ce que la population dit, ou tout ce que la représentation nationale au niveau du Parlement dit, ça reflète les angoisses que les gens ont. Mais à côté de ces angoisses, il faut reconnaître que on ne peut pas manger l'omelette sans casser les œufs. Mais maintenant, comment on va casser ces œufs? Et c'est toute l'angoisse qui est suscitée, qui fait que le débat soit passionné par moment.
Mmh.
Il y a donc deux points de vue. Il y a le point de vue de ceux qui veulent le statu quo. Moi, je pense que ce n'est pas le bon.
Mmh.
Mais il y a le point de vue de ceux qui disent qu'il faut essayer la réforme.
Mmh.
Et cette réforme ne doit pas être comprise comme étant un événement. C'est un processus. Ça va prendre du temps.
Mmh.
Ça va prendre aussi du tact.
Donc, il faut avoir confiance en ce processus, en cette réforme.
Je pense qu'une certaine confiance est nécessaire en tout. Hein. Nous devons avoir quand même confiance en nos dirigeants,
mm-hmm.
tout en reconnaissant que les angoisses de la population sont fondées quelque part.
Merci beaucoup.
Parmi les griefs qu'on a fait, par exemple, au COPIEP, c'est le fait que, jusque-là, les travailleurs ont perçu qu'il n'y avait pas beaucoup de transparence dans ce qu'on faisait, qu'il y avait une tendance vers les entreprises les plus juteuses qu'on voulait réformer par rapport à celles qui sont effectivement malades, etc. Je pense que là-dedans, il y a des choses positives qu'on peut prendre et puis il y a aussi des choses sur lesquelles il y a...
Nous sommes vraiment à la fin de cette émission. Peut-être qu'on pourra organiser une autre émission pour être un peu, pour qu'on puisse aller en long et en large. Nous allons directement donner la parole à notre invité, mais aussi une question de M. Philippe Roger de Kinshasa. Il dit que concerne le copyright dans le cadre de la réforme des entreprises du portefeuille qui sont en voie d'être privatisées, telles que la Sonas, car il semblerait qu'il y a des préalables qui ont été définis lors de la dernière table ronde qui a eu lieu à Kinshasa. Donc, on vous remet la parole pour conclure cette émission.
peut-être rassurer l'auditeur. À ma connaissance, il n'y a pas à ce jour des entreprises qui sont en train d'être privatisées. Il y a des entreprises qui sont en train d'être stabilisées. Il faut bien faire la part des choses. Alors, peut-être vais-je conclure en prenant un petit mot de chaque intervention. J'ai noté du député Lutundula que la réforme était nécessaire, mais qu'il y avait un certain nombre de garde-fous qu'il fallait maintenir et qu'il fallait des contrôles. Je note du professeur Nkubosim que la réforme crée des angoisses, et cela est normal. L'homme, par définition, a peur du changement. Même lorsque vous déménagez d'un quartier pour un autre, vous vous demandez ce qui va se passer. La meilleure manière de calmer ces angoisses, c'est d'être à l'écoute de cette réforme, d'essayer de se renseigner le plus possible. C'est pour ça que je suis heureux de l'occasion que vous nous donnez de lever un certain nombre de choses mal comprises, n'est-ce pas, et de mieux les recadrer. Et comme vous l'avez si bien dit, je pense qu'il faut plus qu'une émission pour aller vraiment au bout des inquiétudes.
Donc, la réforme est en marche, le processus est déclenché. En tout cas, nous vous disons merci beaucoup, M. Albert Lieke, d'avoir répondu à notre invitation. Nous sommes arrivés vraiment à la fin de cette émission. Je rappelle que vous êtes chargé de communication du comité de pilotage pour la réforme des entreprises du portefeuille de l'État. Nous disons également merci à M. Richard Ngouboussine de l'Association nationale des entreprises du portefeuille pour son intervention. Sans oublier les députés qui sont intervenus et tous les citoyens congolais qui ont participé à cette émission.
Allô? 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 Il ne répond pas?
Toutefois, n'oubliez pas que le prochain rendez-vous avec Parole aux auditeurs, c'est demain pour un nouveau numéro. Et nous pourrons dire que 4000 malades meurent de la tuberculose chaque jour en RDC. Et le pays, cette année en RDC, et le pays est classé 4e en Afrique. Il faudrait dire que nous avons deux questions pour lancer notre débat. Quelle est la situation dans votre milieu? Mais aussi, que faut-il faire pour pouvoir éradiquer ces maladies qui sont censées disparaître et maîtriser en médecine? Merci beaucoup de nous avoir suivis. Nous disons encore une fois merci à Titi Foufou, à Pierre Lamézi, à Nicole Ngaka pour la réalisation de cette émission, sans oublier William Longba pour la mise en onde de cette émission. Restez branchés.